Mesdames et messieurs, cher public, l'objet de cette leçon n'est pas de retracer dans sa globalité l'histoire des associations de gens de théâtre, poètes, musiciens, acteurs, que les Grecs désignaient sous le nom générique de technitai, d'hommes de l'art, plus particulièrement de dionysiakoi technitai. Il existe en effet de bons ouvrages récents sur ce développement qui est très caractéristique du théâtre grec et par là de toute la civilisation hellénistique, avec un prolongement d'ailleurs, aujourd'hui plus manifeste que jamais durant le Haut Empire romain, comme l'atteste un beau dossier mis récemment au jour de lettres impériales à Alexandrie de Troade. Mon propos est plus modeste. Il a pour but de replacer dans leur cadre historique les deux documents dits amphictyoniques qui seront présentés tout à l'heure par mon jeune collègue de la Sorbonne, M. François Lefebvre, excellent connaisseur de l'épigraphie de Delphes. Je prendrai moi-même, à la fin de cette leçon, le soin, ou plutôt le risque, de commenter brièvement un morceau de choix, plus spécifiquement athénien, du dossier delphique relatif aux technites d'Athènes. Signalons à ce propos la parution, il y a quelques mois à peine, d'un recueil qui fera date, certainement, s'il veut bien venir, dans nos études, un très ample choix des inscriptions de Delphes, dû à trois de nos camarades de l'école d'Athènes, Madame Anne Jacquemin, Monsieur Dominique Mullier et Monsieur Georges Rougemont, trois Delphiens émérites. Je demanderai peut-être à un de mes assistants de venir de voler à mon secours. C'est un plaisir, en tout cas pour moi, de reconnaître ma dette à leur égard aussi. Mais n'étant pas astreint à respecter la chronologie, ni obligé de m'en tenir au seul cas athénien, en dépit de son incontestable exemplarité, je voudrais, merci beaucoup, commencer par attirer votre attention sur une monnaie. Donc voilà la page de titre du livre du choix des inscriptions de Delphes. Je passe tout de suite à la monnaie, qui illustre bien, me semble-t-il, l'importance prise par les technites dionysiaques à partir du moment où ils se regroupèrent en associations professionnelles, régionales, et où ils devinrent des interlocuteurs indispensables pour les collectivités publiques, cités, confédérations, royaumes, qui avaient l'ambition d'organiser des fêtes religieuses d'une certaine ampleur, dotées d'un concours musical et dramatique célébré dans un théâtre. Ce tétradrachme d'argent, ou tétrachmon, comme on disait alors au témoignage des inscriptions, n'est connu alors, semble-t-il, que par une seule pièce, parvenue il y a peu entre les mains d'un collectionneur américain, et publiée en 2003, vous le voyez, dans le Numismatic Chronicle de Londres. Cela ne signifie certes pas que l'on ait affaire à un unicum absolu, car à coup sûr, la pièce fut frappée à plusieurs milliers d'exemplaires, même dans l'hypothèse où il y aurait eu un seul coin de droit et un seul coin de revers. D'autres exemplaires pourront donc surgir à l'occasion de la mise au jour d'un trésor monétaire encore enfoui sous terre. Mais il paraît d'ores et déjà clair que cette émission demeura isolée, car la pièce conservée ne présente aucune marque de série, qu'il s'agisse de ce qu'on appelle un symbole, une image adventice, ou d'un nom de magistrat. On y voit seulement, au droit, une effigie divine, un peu joufflue, clairement Dionysos, hein, d'une espèce de diadème, la mitra dionysiaque, avec une couronne de lierre, dont les deux extrémités sont faites d'une pomme de pin, comme on le voit mieux sur la représentation du revers. Là, cette couronne sert de cadre circulaire à l'inscription monétaire ou légende, de part et d'autre d'un thyrse à bandelettes, donc, que vous voyez, qui est un autre emblème dionysiaque, évidemment. On lit ton peri ton dionyson technitone, émanant des technites groupées autour de Dionysos. Cette monnaie offre beaucoup d'analogies avec des séries municipales d'Asie mineure occidentale, qualifiées précisément un peu abusivement du reste, puisque ce terme devrait être réservé en principe au seul monnayage attique, de stéphanéphore. Et il semble bien d'ailleurs qu'elle ait été découverte en même temps que des monnaies émises notamment par les villes de Léolide, comme Myrina, dont vous avez des exemplaires ici, avec des types extrêmement semblables. C'est aussi une indication chronologique approximative, aux alentours, disons, de 160-150 avant Jésus-Christ, à l'époque du roi Eumène II de Pergame, que nous avons si souvent rencontré dans les documents attiques et qui entretenait des liens étroits avec les technites installées dans sa capitale, ou dans les villes d'Ionie, qui lui avaient été attribuées par le traité d'Apamée en 189. On ne saurait douter, en tout cas, que l'association de technites qui fit frapper en son nom cette splendide émission, exerçant ainsi un droit régalien, habituellement réservé aux cités, aux confédérations et aux rois, ne fasse qu'un avec celle qui, dès la fin du IIIe siècle, apparaît dans les documents Dionysi comme to koinon, ton periton dionyson technitone, donc exactement la même formule, et qui, à l'étranger, se fait connaître d'abord par le nom de technitai oi epi ionias kai elespontou. Ainsi peut-être, dans le document que vous avez sous les yeux, qui pourrait dater des alentours de 230 et qui émane des Étoliens. Appellation à laquelle s'ajoute plus tard la mention de Oi Periton Dionyson Kategemona, quand l'association se fondit avec celle dont le siège était à Pergame même. Ces artistes se distinguaient ainsi de ceux qui, en Grèce, s'étaient constitués, dans le même moment, en association à Athènes, et sur les rives du golfe de Corinthe. Le koinon micrasiatique avait élu domicile à Théos, au nord d'Éphèse. Ce n'est évidemment pas un hasard si le culte de Dionysos occupait la première place dans le panthéon de cette ville de moyenne importance, où se dressa bientôt un nouveau temple, œuvre d'un architecte réputé, Hermogène. Cet édifice compta très vite au nombre des chefs-d'œuvre de l'architecture hellénistique. L'installation des technites à Théos doit dater des alentours de 220 au plus tard, en jugé par un décret de cette cité qui, vers 210 déjà, accorde maints privilèges aux technites. 10 ans plus tard encore, sous la domination séleucide, la symbiose de la cité de Théos avec le koinon des technites donne l'impression d'être parfaite, chacune des deux parties tirant grand bénéfice de la position et de l'activité de l'autre. Un dossier épigraphique de Delphes enseigne en particulier comment les techniques se trouvaient alors associées aux privilèges accordés à la cité elle-même. Il date de l'époque où les Étoliens avaient encore l'hégémonie dans l'Amphictyonie, et la haute main sur le sanctuaire pythique, disons vers l'an 200 avant Jésus-Christ. On a là pas moins de trois décrets de la communauté, qui reconnaissent à Théos l'inviolabilité, de son territoire, la sécurité de ses ressortissants, privilège que les Théiens ont sollicité auprès de la communauté des Hélènes, pour le sanctuaire de Dionysos précisément, selon une procédure bien rodée à partir du milieu du IIIe siècle, quand se développent en diverses régions du monde grec de nouveaux concours panhelléniques célébrés en l'honneur de la divinité Polyade. L'un de ces décrets émane de l'Amphictyonie, à côté de celui de la Confédération étolienne elle-même. L'amphictyonique, c'est celui que vous aviez sous les yeux, et un troisième de la cité de Delphes. Or, tous trois associent aux citoyens de Théos les technites dionysiaques installées dans cette ville et attestent même, dans le cadre du décret amphictyonique, comme on le voit dans l'encadré rouge, l'antériorité des honneurs et des privilèges, timia kai philanthropa, octroyés aux technites. Autrement dit, la cité tire parti de leur présence pour obtenir un statut d'exception. De semblables décrets d'acceptation ont été trouvés à Théos même, dans les ruines du Dionysion. Il eût été intéressant de posséder celui que les Athéniens, très certainement sollicités eux aussi par les Théiens, ne purent manquer de prendre dans le même sens. Car on aurait pu voir en quels termes cette métropole des Ioniens, qui était Athènes, la manière dont ce décret parlait des technites installées à Théos, qui formaient tout de même une association concurrente, sinon encore rivale, de celle des technites d'Athènes. Ce dont on est informé toutefois, ce n'est pas de difficultés surgies alors ou plus tard entre technites ioniens et technites athéniens, mais d'un grave conflit d'intérêts survenu à Théos même entre les citoyens, irrités peut-être par les privilèges exorbitants octroyés aux technites et ces artistes assez âpres aux gains, pas suffisamment coopératifs face aux taxes dont la cité devait s'acquitter elle-même auprès de l'administration attalide en l'occurrence. Un passage bien connu du géographe Strabon, que vous avez dans votre dossier, qui est en même temps l'un des rares, très rares textes littéraires à mettre en évidence le rôle politique joué par ces associations professionnelles, évoque en effet les démêlés des technites de l'Ionie avec les gens de Théos, au point de parler d'une stasis, d'une véritable guerre civile. Donc, livre 14, 1-29 de Strabon. L'association fut contrainte ou se décida de plein gré à quitter la ville pour chercher un abri provisoire dans la grande Éphèse, qu'elle quitta bientôt pour la petite ville de Myonessos, peut-être avec une étape à Priène, selon Plutarque, puis pour Lébédos, c'est la situation que décrit Strabon, apportant à cette vieille, mais alors assez chétive cité, un surcroît bienvenu de population et de ressources. Ce témoignage a été confirmé depuis longtemps par un document de Pergame, une lettre mutilée, passablement mutilée, on donne un extrait ici, du roi Eumène II, qui, avant sa mort en 158, avait voulu mettre fin à cette longue querelle tournant autour de l'organisation de la panégyrie de Dionysos, source de revenus importants pour les deux communautés qui s'en partageaient la gestion. C'est vraisemblablement dans ces circonstances que les technites Dionys ont émis le superbe tétradrachme, attestant leur autonomie financière et d'abord politique. Dès la fin du IIIe siècle, du reste, on voit cette association agir à la manière d'un État en votant des décrets d'acceptation de concours musicaux promus à un nouveau statut, exactement comme le font les poleis ou les basileis du monde hellénistique, ainsi pour les leucophriena de... Je vais le mettre tout à l'heure... ici, de Magnésie du Méandre, donc un exemple. C'est pourquoi il m'a paru intéressant de dire ici un mot de ces technites d'Ionie, d'autant plus que si leur champ d'activité a été essentiellement l'Orient grec, ils ont participé aussi à quelques-uns des plus prestigieux concours musicaux de la vieille Grèce, ainsi Oupitia de Delphes, et que leur présence en Béotie, j'y reviendrai dans un instant, est formellement attestée par un célèbre décret honorifique trouvé, lui, à Délos. On notera au passage que le terminus chronologique indiqué partout pour ce document, soit l'année 166, doit être remonté d'une année, car il est certain aujourd'hui que c'est en 167 déjà que l'île passa sous la domination athénienne. Ainsi apparaît clairement le caractère international de leur activité, avec tout ce que cela implique d'émulation, de rivalité, de conflit parfois entre les compagnies concurrentes. Il ne semble pas, en revanche, que les technites d'Athènes aient jamais toléré la présence sur le sol de l'Attique d'une association rivale. C'est une question toujours ouverte que de savoir où et quand exactement se sont formées ces premières associations de technites dionysiaques. Sur leur histoire et leurs institutions, on dispose certes depuis une dizaine d'années de deux riches études qui, en partie, se complètent, souvent se renforcent l'une l'autre, à savoir l'ouvrage de Madame Brigitte Le Guen, les associations de techniques dionysiaques, thèse d'habilitation parue en 2001, qui réunit commodément une synthèse de grande ampleur et un recueil de documents littéraires épigraphiques, surtout épigraphiques, et l'ouvrage de Madame Sophia Anesiri, dit Vereine der Dionysischen Techniken, publié peu après en 2003, contenant lui aussi un recueil de textes. Athènes prétendait à l'honneur d'être la première cité où des techniques se fussent associées. On verra tout à l'heure sur quoi reposait cette prétention, très explicitement formulée dans l'extraordinaire éloge d'Athènes que fournit un décret amphictyonique des années 120. Bien ou mal fondée, cette idée d'une prééminence athénienne en ce domaine, comme en beaucoup d'autres, était en tout cas largement acceptée en Grèce même, parmi les peuples qui formaient cette amphictyonie dont notre hôte dira quelques mots tout à l'heure, en spécialiste qu'il est des choses delphiques. De toute façon, on ne saurait guère penser que la Sunodos d'Athènes soit restée bien longtemps seule de son espèce, car elle n'aurait pas pu, l'eût-elle seulement voulu, répondre à une demande qui, à partir d'une certaine date, dut se faire de plus en plus pressante. Les inscriptions ne fournissent assurément aucun acte de naissance, mais seulement des indices, et d'abord un très important terminus antequem, comme on dit, une limite chronologique au-delà de laquelle on ne saurait descendre. Le document qui fournit ce terminus est précisément le premier des deux décrets amphictyoniques qu'examinera M. Lefebvre, un dogma archaion amphictyonon, c'est le titre, un décret ancien que l'on prit soin d'exhumer des archives pour le graver à nouveau, car il établissait des droits auxquels les bénéficiaires, en l'occurrence les technites d'Athènes, étaient fort attachés. Or, ce document capital a pu être daté par les modernes de l'année 278 ou à peu près. C'est donc la preuve que l'association non seulement existait à cette date, mais qu'elle avait déjà acquis alors une grande notoriété en raison de l'excellence de ses prestations delphiques en particulier. Mais il serait bien téméraire d'en conclure, comme on le faisait autrefois, que l'association était aussi ancienne que le théâtre athénien, remontant à la période des grands poètes tragiques ou du moins d'Euripide. Certes, dès la fin du Ve siècle se manifeste au travers de nos sources une certaine indépendance du métier d'acteur, d'instructeur aussi, par rapport à l'activité des poètes tragiques. La chose est patente à partir du moment où leurs pièces, celles d'Euripide en particulier, commencèrent à être reprises à l'étranger, jouées par des stars de la scène, comme cela se généralisa ensuite. Un exemple, à vrai dire, plus récent qu'on ne l'a cru, est fourni par une célèbre inscription de TG, un palmarès, qui montre au début du deuxième siècle, et énumère les victoires d'un acteur et pugiliste à l'occasion dans quelques concours renommés, dont celui en premier lieu des Grandes Dionysies athéniennes, mais aussi dans plus de 80 concours scéniques laissés dans l'anonymat. Or, c'est souvent en jouant le premier rôle dans une tragédie de Ripide, on le voit, qu'il remporta la couronne et d'autres récompenses sans doute plus substantielles. Dès 1914, en fait, dans une dissertation latine qui a fait date, consacrée ad historiam collegiorum artificum baciorum, Günther Klaffenbach repoussait l'idée que la formation d'associations réunissant tous les genres du théâtre put avoir commencé beaucoup avant le début du IIIe siècle. Ce développement obéissait à des réalités nouvelles, notamment, pour le rappeler ici d'un mot, à l'engouement des rois de Macédoine, du jeune Alexandre surtout, pour les représentations théâtrales, y compris durant sa longue campagne en Orient, ce qui engendra un déplacement de spécialistes pour le suivre, pour le rejoindre, pendant les années 334-323. À cela s'ajoute qu'un nombre toujours plus élevé de cités souhaitait organiser de tels spectacles, d'où une demande sans cesse accrue, qui se tournait prioritairement, sans doute, vers les acteurs de la scène athénienne, parmi lesquels il y avait d'ailleurs de nombreux étrangers. À Athènes même, le programme de représentation théâtrale lié aux fêtes de Dionysos s'était développé tout au long du IVe siècle, tant en ville que dans l'Édème et sur le plan édilitaire, à Athènes même, avec le nouveau théâtre de Lycurgue vers 330. Une chose en particulier doit être soulignée, c'est la place grandissante occupée par les acteurs dans les concours dramatiques. Les auteurs eux-mêmes sont certes toujours en première ligne, les tragodoi comme les komodoi, mais dès le moment où l'on autorisa la reprise de pièces anciennes, de palaiai, comme on appelait ces œuvres du répertoire, ce sont les acteurs qui, par la force des choses, ce sont eux que l'on applaudissait en priorité. Il est vrai que la représentation de ces palaiai se fit longtemps en marge du grand concours organisé lors des Dionysies à Athènes pour les tragédies et les comédies nouvelles. L'innovation n'est pas réalisée encore lorsqu'en 278, les technites athéniens apparaissent pour la première fois en tant qu'association, on l'a vu, à travers l'archaïon dogma des amphictyons. S'il est permis d'être affirmatif sur ce point, c'est que l'on possède de longue date les vestiges d'un monument élevé précisément, on est d'accord là-dessus, en l'an 279-8, au théâtre de Dionysos, avec deux listes, il est vrai très mutilées, récapitulant l'histoire des représentations dramatiques, avec aussi un catalogue de vainqueurs, et qui fut continué jusqu'au IIe siècle avant Jésus-Christ. Je ne montre ici qu'un spécimen sans le commenter. Or, ces catalogues si précieux, avec la mention des pièces et le nom de l'auteur victorieux, ne font encore nulle mention d'un concours spécial d'œuvres dramatiques anciennes. Cette catégorie figure en revanche dans un document plus récemment découvert, datant du milieu du IIIe siècle, que vous aviez sous les yeux. Or, j'ai signalé dans mon cours de 2011 que cette inscription d'aspect un peu rébarbatif avait fait en 2008, dans la revue des études grecques, l'objet d'un intéressant article de Mme Diane Lassouma, qui montre que l'innovation a chance de remonter au début des années 270. De fait, à partir de cette époque, les décrets honorifiques athéniens font état à propos de la proclamation des honneurs aux grandes Dionysies d'un concours de tragédie qualifié de nouveau. On l'a notamment pour la première fois dans le fameux décret pour Callias de Sphaetos. Il est vrai que cette expression est entendue par certains comme se rapportant au concours des tragédies nouvelles qui serait le plus prestigieux. Mais l'interprétation défendue par Mme Souma, après d'autres, semble plus naturelle. Au surplus, il ne serait pas surprenant qu'on ait choisi pour la proclamation, pour l'anagoreusis des privilèges octroyés aux plus grands bienfaiteurs, ce nouveau concours des palaiai, car la représentation de pièces d'Euripide ou beaucoup d'autres poètes mal connus de nous pouvait attirer un très vaste public, y compris bon nombre d'étrangers. De là à penser que ce nouveau concours avait été instauré pour célébrer la victoire des Grecs sur les Celtes en 278, comme le propose l'épigraphiste italien de Berlin, il y a certes un pas à franchir. Mais la conjecture ne me semble pas trop audacieuse, compte tenu des manifestations de fierté, de reconnaissance que la victoire suscita ailleurs en Grèce. Et cela, même si la contribution athénienne à ce succès panhellénique a été exagérément grossie, on l'avait vu aussi par Pausanias. De toute façon, cet enrichissement du programme des Dionysies ne pouvait qu'accroître le rôle dévolu à l'association des technites d'Athènes à partir du second quart du IIIe siècle. Les koina, ou parfois synodoi, ton technitone, ont ainsi dû prendre forme vers 300 avant Jésus-Christ, pas nécessairement beaucoup plus tôt. À défaut d'avoir la preuve formelle de leur existence avant la libération d'Athènes en 287, qui marque d'ailleurs un tournant pour bien d'autres cités du Péloponnèse et de la Grèce centrale, à commencer par la Béotie, on possède du moins un témoignage épigraphique de premier ordre sur la mission que les techniques pouvaient dès alors se voir confier dans la célébration de concours musicaux. Il s'agit d'une décision prise en commun par les cités de Leubée. Tadox, vous en avez ici une photographie, Pierre Malcommode s'il en est, ta doxanta euboioïsin, à une date que tout invite à placer vers la fin des années 290, en tout cas avant que le roi Démétrios, expressément désigné comme ô basileus, dans cette inscription, ne perde le contrôle de l'île de B, suite à l'échec de son ultime expédition en Asie mineure. Cette loi eubéenne sur les technites dionysiaques, comme on l'appelle, ne nous est connue par l'exemplaire qui se dressait dans le théâtre d'Érétrie, où j'ai pu repérer naguère la trace de son emplacement, la pierre elle-même ayant été retrouvée vers 1900 en remploi tardif dans le sanctuaire d'Apollon. Donc, on peut rétablir sous cette forme la pierre à son emplacement primitif. Ce document considérable, mais d'une lecture malaisée, a été laissé de côté par Madame Azeviri dans sa récente synthèse, en raison du fait qu'aucune association n'y est reconnue comme interlocutrice, mais seulement des technitai, désignés aussi par le terme d'ergolaboi, preneurs d'entreprise, qui peuvent être des chefs de troupe, des protagonistes. Le document énonce en effet de façon détaillée les règles à suivre pour l'engagement sur appel d'offres, répété chaque année, d'un nombre important de gens du théâtre, pas loin d'une centaine sans doute, en vue de la célébration coordonnée de deux grandes fêtes dans chacune des quatre cités de l'île. Ce n'est donc pas un contrat. Il n'empêche que ce document est, de l'avis général, d'une importance capitale pour comprendre sous quelles conditions ces acteurs et musiciens entraient au service de leur employeur, chose qu'ils faisaient encore à titre individuel à cette date, puisque nulle part, comme le faisait observer Klaffenbach dans sa dissertation berlinoise, bientôt centenaire, le texte ne fait état d'un koinon technitôn avec lequel les représentants des quatre cités auraient nécessairement dû négocier si l'on avait prévu d'engager collectivement les acteurs et musiciens requis pour la célébration des deux fêtes. Étant donné toutefois que même plus tard, le recrutement des artistes a pu continuer à se faire sur une base individuelle, cela n'exclut pas l'existence, dès cette époque, d'une association de technites d'Athènes, notamment. Si l'on n'a pas recours à elle, c'est peut-être parce que l'on jugeait tout simplement impossible de faire venir en Eubée, à la saison des Dionysies attiques, des technitai déjà accaparés par leurs mandats locaux. Mais c'est de toute façon un texte capital pour ce sujet et l'on ne peut que savoir gré à Madame Brigitte Le Guen d'avoir pris, elle, le parti courageux de rééditer ce texte en l'assortissant d'une traduction et d'un commentaire, chose qui, il est vrai, avait déjà été en partie réalisée par la regrettée Paulette Giron-Bistagne dans sa thèse de 1976, recherche sur les acteurs en Grèce, qui voulait mettre en évidence tout ce que cette inscription enseigne sur les obligations et les droits des hypocritai, des acteurs, quand ils louaient ainsi leur service auprès d'une collectivité. Dans l'intervalle, en 1984, l'épigraphiste grec Yannis Stéphanis, bon connaisseur des technitai, de leurs carrières individuelles, avait contribué à améliorer la lecture et la restitution du texte. J'avais moi-même, dans un article de 1989, étudié sur des bases nouvelles le calendrier des cités eubéennes, ce qui n'était pas sans incidence sur la manière dont il convenait de se représenter le programme des festivités, tel que le donne, en partie au moins, l'inscription des rétries. Du reste, quelques-uns des auditeurs et auditrices encore présents aujourd'hui, je salue au passage leur admirable résistance, se souviennent sans doute qu'en 2008, dans le cadre d'un cours consacré ici à la cité des rétries, Madame Le Guen avait bien voulu faire un exposé là-dessus, provoquant une discussion animée avec votre serviteur. C'est que l'interprétation d'un tel document, avec ses parties manquantes, est nécessairement controversée en bien des points. Plus récemment encore, l'établissement du texte a enregistré quelques progrès grâce à une communication faite par le professeur William Slater dans un colloque organisé en 2010 par notre collègue parisienne sur l'argent des concours. Ce spécialiste a en effet pu montrer que dans deux clauses mutilées relatives au salaire mistos des protagonistes, c'est au 15-22, il fallait renoncer au supplément admis jusqu'ici et introduire le nom des Aristonikéens, fête locale, qui à Charistos s'ajoutait aux deux concours musicaux célébrés dans chacune des quatre cités de l'île. Mais un important problème demeure, comme l'a noté ce savant et comme je l'ai relevé à mon tour en rendant compte de cette publication dans le bulletin épigraphique de 2011. Selon l'opinion commune, en effet, que Madame Le Guen a rendu plus aisé à saisir au moyen d'un tableau, celui que vous avez sous les yeux, les technites engagées selon les modalités de la loi eubéenne feraient dans l'île un séjour prolongé, un séjour de plusieurs mois, en passant de ville en ville, d'abord du sud au nord, pour concourir aux Dionysiens, puis du nord au sud, pour célébrer les Démétriéas. De prime abord, rien ne paraît plus logique. Le problème, c'est que cette restitution s'accorde difficilement avec ce que l'on devine du calendrier des cités eubéennes, car s'il est effectivement bien établi que les Dionysia se célébraient à la fin de l'hiver, au mois de l'Endaïon, comme il est indiqué ici et sur ce tableau également, à Érythrée et à Calchis, il n'est guère possible de placer les Démétria au printemps, ni même au début de l'été, le mois de Bouphonion, mentionné pour Charistos dans ce contexte, étant un mois de fin d'été correspondant à Boedromion en Attique. À cela s'ajoute que la restitution Hippione, un mois spécifique de Calcis et d'Érythrée, considéré comme sûr jusque-là par tous les éditeurs, est sujet à caution et pourrait devoir être remplacé avantageusement par la restitution Héraion, autre nom de mois attesté en Eubée centrale. Dès lors, les Démétria tomberaient au début de l'automne et ne pourraient donc plus avoir été célébrés dans la foulée des Dionysia. Cela renforcerait l'opinion, qui est la mienne, que sous ce nom de Démétria, on honorait certes le roi Démétrios, divinisé comme à Athènes à la même époque, mais d'abord la vieille déesse Déméter, dont le nom figure justement au nom des quatre divinités, soit Apollon, Artémis, Dionysos, Déméter, que les techniques devaient prendre à témoin pour prêter serment devant les représentants des cités eubéennes. Ces gens de théâtre auraient donc fort bien pu, dans l'intervalle du printemps et de l'été, disons entre mars et août, vaquer à d'autres tâches en fonction d'engagements pris chez eux ou ailleurs. De toute manière, on voit par là quel genre de problème pose un texte aussi complexe dès que l'on s'attache à comprendre le déroulement exact des opérations. Mais au-delà de ces difficultés, il est peu de témoignages plus éloquents sur la vie nomade des technites dionysiaques. Avant de regagner Athènes, un petit détour par la Béotie s'impose, car les technites, ceux d'Athènes aussi du reste, y furent très actifs à partir de la seconde moitié du IIIe siècle. Voici pas mal d'années déjà, en 2005 et 2006, j'en avais traité ici à propos des Boiotica de Pausanias. Même si cet auteur n'a pas éprouvé le besoin de disserter longuement sur les concours musicaux de la Béotie, pour lequel notre documentation est essentiellement épigraphique. Les documents qui s'y rapportent ont été depuis réunis en un utile corpus, paru en Italie en 2009, dû à Madame Alessandra Manieri. J'en ai rendu compte en diverses notices assez détaillées du bulletin épigraphique de 2010 et de 2011. Ici, je me bornerai à rappeler quelques points en rapport direct avec l'histoire des technites. Désormais constituées en plusieurs associations, ceux-ci furent en effet sollicités pour participer à la célébration de plusieurs fêtes où les concours musicaux et scéniques tenaient une place prépondérante. Durant les années 220, en effet, il y eut en Béotie un grand mouvement de réorganisation, parfois associé à d'ambitieux programmes de construction, comme à Lebadée, où sous l'égide de la Confédération béotienne, alors en pleine expansion, un temple commença à être élevé pour Zeus Basilios, mais je ne reviendrai pas ici sur les Basileia ni sur les Trophonia, puisque le programme de ces deux concours était presque exclusivement gymnique et hippique, non pas musical. Aussi n'a-t-on pas la moindre mention des technites pour ces deux fêtes, dont l'insertion dans le recueil de Madame Manieri est dès lors un peu artificielle. Mais la ville de Thèbes, lieu de naissance de Dionysos, et pas seulement d'Héraclès, ne pouvait manquer, elle, d'honorer le dieu du théâtre. De fait, on connaît à Thèbes une fête pour Dionysos Cadmeios, siégeant au sommet de la Cadmée, fête qui aurait pu s'appeler Cadmeia, mais qui portait en fait le nom de Agrionia, en rapport avec une épiclèse bien connue dans les cités béotiennes. Je rappelle ici une restitution palmaire du maître Louis Robert, dans une inscription des technites précisément, car il ne faut jamais se lasser d'évoquer les belles découvertes qui ne sont pas nécessairement dues à la pioche et à la pelle, mais peuvent être le fruit du savoir et de la sagacité. Il s'agit du décret trouvé à Delos et conservé au Louvre, qui émane, je l'avais dit, des technites de l'Ionie et de l'Hellespont, cette association dont l'histoire a été brièvement évoquée à propos de la nouvelle monnaie. Les technites s'y enorgueillissent de leur participation à plusieurs fêtes prestigieuses, les Pythias de Delphes, les Mouséias de Thespie, de même qu'à un concours organisé à Thèbes, dont le nom avait cependant disparu dans la lacune. Tous les éditeurs y avaient inséré, un peu automatiquement, le nom d'Héraclès et celui des Héracléas, très prestigieuses fêtes thébaines, déjà mentionnées dans quelques textes littéraires. Robert a montré que cette double restitution était inepte, puisque les technites n'avaient rien à faire dans un concours athlétique. Il a pu y découvrir le nom de Dionysos et celui des Agrionia, prouvant du même coup que ce concours occupait dès alors un très haut rang dans la hiérarchie agonistique. Plus tard, en 1977, le même savant a su faire progresser l'interprétation d'un important dossier delphique relatif à cette fête des Agrionia pour Dionysos Cadmeios, il est question aussi des technites, justement, dans ce document. On y apprend notamment que vers 230, une demande avait été adressée à l'Amphictyonie pour que ce sanctuaire thébain pût bénéficier du privilège d'une trêve sacrée, Ekekeiria, cela afin de garantir la sécurité du sacrifice et du concours lors de la célébration des Agrionia tous les deux ans. On y apprend aussi que l'organisation de ces triétérides, comme dit l'inscription, était assurée conjointement par la cité de Thèbes et par les technites dionysiaques, cette fois ceux de l'isthme de Corinthe et de Némée. C'est la première mention dans ce contexte béotien de cette très importante association péloponnésienne dont la tâche principale était de fournir en concurrent expérimenté les épreuves musicales de ces deux grands concours qu'étaient les Isthmia et les Néméa. Les technites se voient expressément autorisées par l'Amphictyonie à faire l'annonce de la fête auprès des autres cités en collaboration étroite avec la cité de Thèbes. Autrement dit, ils occupent dès alors à Thèbes une position de premier plan, sinon même de monopole. Car la participation des technites siégeant à Théos n'est formellement attestée que pour le début du IIe siècle, et celle des technites d'Athènes est seulement possible ou probable, mais non encore documentée pour cette fête-ci. De fait, les technites de l'isthme s'implanteront fortement en Béotie, au point d'y avoir bientôt diverses antennes locales, dont l'une était à Thèbes même, l'autre à Chalcis, peut-être ailleurs encore. Mais je réserve l'étude de ce nouveau développement, pas antérieur au milieu du IIe siècle, à une prochaine leçon qui sera consacrée à l'institution de Romaïa, fête connue depuis longtemps à Athènes et chez d'autres peuples grecs, désormais attestée à Thèbes par un catalogue récemment publié. La question, en effet, est liée de très près à celle des relations entre le monde hellénistique et les Romains, avant comme après le dramatique tournant de l'année 146, qui vit justement la mise au sac et la disparition, au moins temporaire, de la ville de Corinthe, siège principal, jusque-là, des technites de l'isthme et de Némée. La seconde moitié du IIe siècle devait être en effet une période assez chaotique pour la grande association péloponnésienne, car vers 120, elle entra en conflit ouvert avec celle d'Athènes à propos des Pythias. Et c'est à Delphes encore que s'est conservé le document majeur qui nous en instruit. Il faut donc avoir présent à l'esprit ces rivalités d'ores et déjà existantes quand on lit le beau décret irénique. En Béotie, il y a deux autres grands concours dont la réorganisation entraîna une participation accrue des associations de technites dans les dernières décennies du IIIe siècle. Mais à la différence de ce que l'on observe pour Thèbes, où l'on n'a pas trace de l'intervention des autorités fédérales, le koinon boyoton fut très impliqué à partir d'une certaine date dans la gestion des mouseia de Thespi et des ptoia d'Acrefia. Mais le dossier épigraphique des ptoia, en dépit de sa relative ampleur, est muet, pour le moment en tout cas, sur une éventuelle coopération des technites à la célébration de ce concours, en partie musical pourtant. Il existe en revanche des preuves éclatantes de leur participation collective à l'organisation des mouseia de l'Hélicon dans le territoire de Thespie. C'est d'abord un décret bien conservé émanant des technites de l'Isthme et de Ménée qui répondent positivement à la demande qui leur a été adressée par la cité de Thespie d'accepter la transformation en un concours de caractère panhellénique d'une partie du programme traditionnel, celui où s'affrontaient les musiciens capables de concourir aux épreuves de premier rang, qu'était le chant solo accompagné de la cithare, ou la cithare seule, le morceau d'Aulos en solo accompagné d'un chœur, et enfin l'épreuve de poésie épique. Ce document atteste que les technites péloponnésiens, qui prenaient déjà part à la fête sous sa forme ancienne, jouèrent un rôle essentiel dans sa réorganisation aux côtés des instances municipales, Thespie, et fédérales. L'intérêt du dossier, c'est qu'il contient aussi un décret manifestement athénien qui avait été découvert dans le Val des Muses avant même la fouille de la fin du XIXe siècle. Les auteurs de ce décret acceptent eux aussi la promotion des épreuves musicales en un concours stéphanite de même rang que les Pythia et donnant dès lors droit aux vainqueurs de recevoir les mêmes privilèges que les Pythioniques. C'est le décret que vous avez sous les yeux. Mais ce décret athénien, amputé en son début et aussi en sa fin, émane-t-il de la cité d'Athènes, comme le pensèrent les premiers éditeurs ou faut-il y voir un décret de l'association de la Synodos des technites d'Athènes, comme l'a proposé Michel Feyel dans ses travaux d'épigraphie béotienne. Cette opinion pouvait sembler bien légitime, puisque la rivalité entre les deux associations ressort clairement, encore une fois, du conflit qui devait éclater vers 120. Dans un mémoire de 1996 sur la réorganisation des mouseia, j'ai pensé pouvoir y adhérer tout en étant conscient que l'opinion de Feyel était ici contestée par d'autres. Mais aujourd'hui, je me rangerai volontiers aux arguments développés par Mme Sophia Anegiri dans son livre de 2003. Certaines particularités du libellé s'accommodent mal de l'attribution à la synodos, surtout dans l'hypothèse où les technites athéniens auraient accepté la réforme des mouseia, on ne comprendrait pas bien qu'il n'ait pas été associé de près ensuite à la célébration de la fête. Ce n'est pas l'absence de vainqueur athénien qui est un indice à opposer à l'hypothèse de Feyel, contrairement à ce que croit Mme Manieri. C'est l'absence de tout signe de la participation des technites athéniens. On notera aussi que ce très probable décret du peuple d'Athènes, qui est à dater des alentours de 200, n'a pas été reconnu comme tel, par omission ou pour toute autre raison, dans le tout récent fascicule 5 du corpus attique. Dès le plus ancien catalogue conservé, qui date d'une époque encore assez proche de la réforme, on constate en effet que le préambule fait une place au délégué par les techniques, qui est un prêtre, hiéréos, sous-entendu apodé ton technitone, après le prêtre des muses. Or, ce prêtre est nécessairement un délégué de l'association péloponnésienne, la seule dont la participation soit avérée. Au chapitre des révisions nécessaires, je relève que la datation de ce catalogue doit être un peu abaissée par rapport à celle que je défendais, après d'autres, dans mon mémoire, car l'apparition d'un document nouveau a permis à mon élève Yanis Kalionsis de proposer dans sa thèse une chronologie révisée des archontes fédéraux en charge aux alentours de 200 avant Jésus-Christ. C'est vers 190-180 seulement que l'on placera désormais, sans certitude mais avec une certaine vraisemblance, l'archonte Lykinos, qui date ce document, Endeon Keisto Lykinou, à côté de l'archonte local. Mais on notera que cet abaissement n'a pas nécessairement d'incidence sur la date de la réforme elle-même, qui pourrait être contemporaine, à peu de choses près, des mesures prises vers 230-220 en faveur des deux autres concours béotiens mentionnés ci-dessus, les Agrionia et les Ptoia, car c'est aussi l'Amphictyonie qui, dans le cas des Mouséia, dut être sollicitée avant la réorganisation du concours. Or, les pauvres restes d'un décret amphictyonique datant justement de ces années-là, traitant à coup sûr de choses béotiennes, Telutius Boyotoi Agonti, pourraient, comme je l'ai suggéré, se rapporter à cette fête des muses de l'Hélicon. On est évidemment sur un terrain plus sûr avec le grand décret par lequel je conclurai cette leçon, puisque l'on a affaire là à un texte d'une ampleur exceptionnelle dont la date peut être établie avec certitude aux alentours de 120 grâce aux récents travaux de Dominique Mullier, soit un siècle plus tard, à une époque où les technites d'Athènes jouissent d'un très grand prestige, non seulement dans leur propre cité, mais aussi à l'étranger, du moins en Grèce centrale, et auprès des autorités romaines, comme cela découle du fait, simplement du verdict qui sera prononcé en leur faveur très peu après par le gouverneur de Macédoine, d'abord, et que le Sénat lui-même, avant que le Sénat lui-même ne vienne leur donner raison dans ce fameux conflit avec la compagnie de l'Isthme. Ce décret gravé sur le trésor des Athéniens à Delphes, et aussi à Athènes même, répond à une demande des technites qui, très probablement, la justifiait par l'énoncé de leur mérite, de leur propre mérite, et leur appel des liens anciens avec l'Amphictyonie. Ce que l'on trouve dans les considérants du décret est donc sans doute, pour une large part, il ne faut pas l'oublier, d'origine athénienne, même si l'on doit bien admettre que les représentants des peuples et cités amphictyoniques, parmi lesquels se trouve du reste un Athénien, connu par ailleurs, partageaient dans leur majorité, sinon à l'unanimité, cette conception très flatteuse des bienfaits rendus à l'humanité par la cité d'Athènes. On a là en effet un panégyrique en règle, assez savamment construit puisqu'il part du constat que c'est chez les Athéniens qu'est née et s'est réunie pour la première fois une synodos technitone, une affirmation qui tout d'abord est énoncée avec concision, comme s'il avait pour seul but d'introduire une série de compliments de beaucoup plus grande portée, puisqu'il s'agit de rien moins que d'affirmer le rôle d'Athènes dans la promotion de l'humanité tout entière, qu'elle a fait passer de l'état de sauvagerie, ek men tu teriodus biou, à l'état de civilisation, es emeroteta. C'est l'apprivoisement, la culture, on n'est pas loin de la fameuse douceur chère à Jacqueline de Romilly. Dans ce processus, l'accent est mis de façon remarquable sur l'introduction par Athènes des cérémonies des mystères et leur transmission au reste des hommes, eisagogon ten ton mysterion paradocine, qui marque le début d'une série non pas d'invention à proprement parler, mais de don fait aux Athéniens par les dieux. Les nomoi favorables aux relations humaines, l'éducation, paideia, le fruit de la terre. Ici très certainement les sitikoi ou le sitikos karpos liés au culte des déesses d'Eleusis. Toute chose qu'Athènes reçut, certes, et d'exato, mais qu'elle sut ensuite transmettre aux autres Grecs à Pédoken. C'est alors seulement que le rédacteur du décret revient sur l'invention mise en avant indirectement dès le début, celle du théâtre, des genres dramatiques, de la tragédie, de la comédie, dont Athènes se trouve être la métropole indiscutable au témoignage de la plupart des historiens et des poètes. On a depuis longtemps noté que la prééminence athénienne dans ce domaine n'accréditait en rien l'idée que les Athéniens auraient été également les premiers à mettre sur pied des associations de technites dès l'époque archaïque, puisque tout montre, on l'a vu, qu'il y a un écart de 2 siècles entre la naissance de la tragédie, pour parler comme Nietzsche, et l'apparition des premières synodoi. C'est dire le côté passablement sophistique de l'argumentation présentée par les technites athéniens et repris en chœur par les amphictyons. Comme l'ont relevé les nombreux commentateurs, les idées que véhicule ce décret ont des racines assez profondes dans la littérature antique et d'abord athénienne. Elles remontent au moins à Thucydide, ou si l'on préfère à Périclès. C'est Athènes considérée comme étant, dans son ensemble, une leçon pour la Grèce. « Ten pasan polin teselados paidoisin einai » livre 2, chapitre 41. Plusieurs passages d'Isocrate, de Cicéron, d'Elius Aristide ont été allégués avec raison depuis un article classique de Gaston Collin en 1900. On pourrait citer aussi, à un niveau plus modeste, la description d'Athènes par Héracléides le Critique, vers 220, on s'y était arrêté, qui voit dans cette ville la seule véritable polis, les villes voisines n'étant guère que des bourgades comailles. Mais personne parmi les spécialistes d'Athènes ou de Delphes, ou parmi les auteurs de travaux récents sur les technites ou sur les mystères, ne paraît avoir songé à alléguer un document provenant, il est vrai, d'une région assez éloignée et appartenant à un genre bien différent, en principe, que de celui d'un décret. Il s'agit d'une inscription, vous l'avez dans votre dossier, découverte à Maronée sur la côte Thrace en 1969 et publiée par Yves Grandjean en 1973 dans la série des études préliminaires aux religions orientales dans l'Empire romain. C'est ce qu'on appelle communément une arétalogie d'Isis, une espèce d'hymne, en l'occurrence rédigée en prose, qui énumère les noms et les vertus de cette divinité gréco-égyptienne. Or, ce texte, qui date lui aussi aux alentours de 120-100, comme notre inscription, contient un passage étonnant où l'auteur, s'adressant à la déesse Isis, lui dit qu'en Grèce, elle a surtout honoré Athènes, « su malista teselados et timesas tas Athénas ». Cette affirmation repose sur l'identification d'Isis à Déméter, d'Éleusis, en tant que dispensatrice des fruits de la terre. Et c'est un héros athénien d'ailleurs, Triptolème, qui, comme le rappelle l'inscription, distribua la semence au reste des Grecs. Voilà pourquoi, poursuit l'auteur, nous avons à cœur d'aller voir dans la Grèce Athènes et dans Athènes Éleusis, estimant que la cité est l'âme de l'Europe. Rien moins que cela. De manière plus ramassée, c'est donc le thème de la cité éducatrice, dispensatrice de la paideia. On voit ainsi qu'à la basse époque hellénistique, cette idée avait largement dépassé les frontières de l'Attique et même de la vieille Grèce amphictyonique. Cet adorateur d'Isis, aux confins de la Thrace, ne pensait pas pouvoir faire de plus beaux compliments à la divinité venue de Memphis, l'Égyptienne, qu'en l'identifiant à la déesse qui présidait au mystère d'Éleusis.